Chapitre 8 Le réveil. Il y avait une heure que je dormais. Il était 4 heures du matin, c'était le 17 août, oh, je ne l'ai pas oublié. Tout à coup, mes deux fenêtres s'ouvrirent à la fois et toutes leurs vitres cassées tombèrent dans ma chambre avec un petit bruit argentin fort joli à entendre. J'ouvris les yeux et je vis une fumée blanche qui entrait doucement chez moi et venait jusqu'à mon lit en formant 1000 couronnes. Je me mis à la considérer avec des regards un peu surpris, et je la reconnus aussi vite à sa couleur qu'à son odeur. Je courus à la fenêtre. Le jour commençait à poindre et éclairait de leur lueur tendre tout ce vieux château immobile et silencieux encore, et qui semblait dans la stupeur du premier coup qu'il venait de recevoir. Je n'y vis rien remuer. Seulement le vieux grenadier, placé sur le rempart et enfermé là au verrou, selon l'usage, se promenait très vite, l'arme au bras, en regardant du côté des cours. Il allait comme un lion dans sa cage. Tout se taisant encore, je commençais à croire qu'un essai d'armes fait dans les fossés avait été cause de cette commotion, lorsqu'une explosion plus violente se fit entendre. Je vis naître en même temps un soleil qui n'était pas celui du ciel et qui se levait sur la dernière tour du côté du bois. Ses rayons étaient rouges et à l'extrémité de chacun d'eux, il y avait un obus qui éclatait. Devant eux, un brouillard de poudre. Cette fois, le donjon, les casernes, les tours, les remparts, les villages et les bois tremblèrent et parurent glisser de gauche à droite et revenir comme un tiroir ouvert et renfermé sur le champ. Je compris en ce moment les tremblements de terre. Un cliquetis pareil à celui que feraient toutes les porcelaines de Sèvres jetées par la fenêtre me fit parfaitement comprendre que de tous les vitraux de la chapelle, de toutes les glaces du château, de toutes les vitres des casernes et du bourg, il ne restait plus un morceau de verre attaché au mastic. La fumée blanche se dissipa en petites couronnes. « La poudre est très bonne quand elle fait des couronnes comme celle-là, » me dit Timoléo en entrant tout habillé et armé dans ma chambre. « Eh, me semble, dis-je, que nous sautons. »« Ne dis pas le contraire, » me répondit-il froidement. « Il n'y a rien à faire jusqu'à présent. » En 3 minutes, je fus comme lui habillé et armé, et nous regardâmes en silence le silencieux château. Tout d'un coup, 20 brambours battirent la générale. Les murailles sortaient de leur stupeur et de leur impassibilité et appelaient à leur secours. Les bras du pont-levis commencèrent à s'abaisser lentement et descendirent leurs pesantes chaînes sur l'autre bout du fossé. C'était pour faire entrer les officiers et sortir les habitants. Nous courûmes à la herse, elle s'ouvrait pour recevoir les forts et rejeter les faibles. Un singulier spectacle nous frappa. Toutes les femmes se pressaient à la porte et en même temps tous les chevaux de la garnison. Par un juste instinct du danger, ils avaient rompu leur licol à l'écurie ou renversé leur cavalier et attendaient, en piaffant, que la campagne leur fût ouverte. Ils couraient par les cours à travers les troupeaux de femmes, hennissant avec épouvante, la crinière hérissée, les narines ouvertes, les yeux rouges, se dressant debout contre les murs, respirant la poudre et cachant dans le sable leurs naseaux brûlés. Une jeune et belle personne, roulée dans les draps de son lit, suivie de sa mère à demi vêtue et portée par un soldat, sortit la première et toute la foule suivit. Dans ce moment, cela me parut une précaution bien inutile, la terre n'était sûre qu'à 6 lieues de là. Nous entrâmes en courant, ainsi que tous les officiers logés dans le bourg. La première chose qui me frappa fut la contenance calme de nos vieux grenadiers de la garde, placés au poste d'entrée. L'arme au pied et appuyé sur cette arme, ils regardaient du côté de la poudrière en connaisseurs, mais sans dire un mot ni quitter l'attitude prescrite, la main sur la bretelle du fusil. Mon ami Ernest d'Arnache les commandait. Il nous salua avec le sourire à la Henri IV qui lui était naturel. Je lui donnai la main. Il ne devait perdre la vie que dans la dernière Vendée, où il vient de mourir noblement. Tous ceux que je nomme dans ces souvenirs encore récents sont déjà morts. En courant, je heurtai quelque chose qui faillit me faire tomber. C'était un pied humain. Je ne pus m'empêcher de m'arrêter à le regarder. « Voilà comme votre pied sera tout à l'heure, » me dit un officier en passant et en riant de tout son cœur. Rien n'indiquait que ce pied eût jamais été chaussé. Il était comme embaumé et conservé à la manière des momies, brisé à 2 pouces au-dessus de la cheville, comme les pieds de statues en étude dans les ateliers, poli, veiné comme du marbre noir et n'ayant de rose que les ongles. Je n'avais pas le temps de le dessiner. Je continuais ma course jusqu'à la dernière cour devant les casernes. Là, nous attendaient nos soldats. Dans leur première surprise, ils avaient cru le château attaqué. Ils s'étaient jetés du lit au râtelier d'armes et s'étaient réunis dans la cour, la plupart en chemise avec leurs fusils au bras. Presque tous avaient les pieds ensanglantés et coupés par le verre brisé. Ils restaient muets et sans action devant un ennemi qui n'était pas un homme, et virent avec joie arriver leurs officiers. Pour nous, ce fut au cratère même du volcan que nous courûmes. Il fumait encore et une troisième éruption était imminente. La petite tour de la Poudrière était éventrée, et par ses flancs ouverts, on voyait une lente fumée s'élever en tournant. Toute la poudre de la tourelle était-elle brûlée? En restait-il assez pour nous enlever tous? C'était la question. Mais il y en avait une autre qui n'était pas incertaine. C'est que tous les caissons de l'artillerie, chargés et entr'ouverts dans la cour voisine, sauteraient si une étincelle y arrivait, et que le donjon, renfermant 400 milliers de poudre à canon, Vincennes, son bois, sa ville, sa campagne et une partie du faubourg Saint-Antoine, devaient faire jaillir ensemble les pierres, les branches, la terre, les toits et les têtes humaines les mieux attachées. Le meilleur auxiliaire que puisse trouver la discipline, c'est le danger. Quand tous sont exposés, chacun se tait et se cramponne au premier homme qui donne un ordre ou un exemple salutaire. Et le premier qui se jeta sur les caissons fut Timoléon. Son air sérieux et contenu n'abandonnait pas son visage. Mais avec une agilité qui me surprit, il se précipita sur une roue près de s'enflammer. À défaut d'eau, il l'éteignit en découvrant avec son habit et ses mains sa poitrine qu'il y appuyait. On le crut d'abord perdu. Mais en l'aidant, nous trouvâmes la roue noircie et éteinte, son habit brûlé, sa main gauche un peu poudrée de noir, du reste toute sa personne intacte et tranquille. En un moment, tous les caissons furent arrachés de la cour dangereuse et conduits hors du fort dans la plaine du Polygone. Chaque canonnier, chaque soldat, chaque officier s'attelait, tirait, roulait, poussait les redoutables chariots des mains, des pieds, des épaules et du front. Les pompes inondèrent la petite poudrière par la noire ouverture de sa poitrine. Elle était fendue de tous les côtés. Elle se balança 2 fois en avant et en arrière, puis ouvrit ses flancs comme l'écorce d'un grand arbre, et, tombant dans la renverse, découvrit une sorte de four noir et fumant où rien n'avait forme reconnaissable, où toute arme, tout projectile était réduit en poussière rougeâtre et grise, délayé dans une eau bouillante, sorte de lave où le sang, le fer et le feu s'étaient confondus en mortier vivant et qui s'écroula dans les cours en brûlant l'herbe sur son passage. C'était la fin du danger. Restait à se reconnaître et à se compter. « On a dû entendre cela de Paris, » me dit Timoléon en me serrant la main. « Je vais lui écrire pour la rassurer, il n'y a plus rien à faire ici. » Il ne parla plus à personne et retourna dans notre petite maison blanche au volet vert, comme s'il fût revenu de la chasse.